quand on parle de théorie, j'ai pas dit je mets une équation et un exemple, hein. Je précise. Non, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tes exemples, en fait, ça a été résultats, ça a été courbe. La théorie, c'est quelque chose dont tu fais abstraction, c'est-à-dire c'est un peu un concept. Donc, à toi de trouver le concept de ta thèse et de tes manips. C'est pourquoi tu fais tes manips, en fait. C'est plus ça. C'est-à-dire, j'ai mon cadre général, qui est un concept, que je veux vérifier. Je vous montre un exemple de manip, d'expérience, mais après, je vais vous parler par rapport à mon concept général. C'est tout. Mais après, c'est vrai qu'il y a des sujets où on va mettre beaucoup de courbes, beaucoup d'exemples, on va dire. Et il y en a, on va mettre beaucoup plus de théories, parce que ça va être beaucoup plus conceptualisé. Mais le tout, c'est pas d'être dans un des extrêmes. C'est-à-dire, tu fais de la chimie médicinale, ne mets pas que des résultats en disant, voilà, on a testé ça, ça marche, on a continué, ça marche pas, on n'a pas continué. C'est conceptualise un peu ton truc. C'est-à-dire, je sors de tout ça, pourquoi j'ai fait mes expériences. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Hein. Sur quoi tu as évalué le jour de ta soutenance de thèse? Ouais, le jour de la soutenance de thèse, t'inquiète, t'es très bon. Non, faut être clair. Une soutenance de thèse, c'est un exercice plus qu'un examen. C'est vraiment un exercice. L'exercice qu'il faut pas rater. Qu'il faut éviter de rater. Voilà. Sur lequel faut être bon. Mais t'évalues un peu sur... Enfin, il n'y a pas d'évaluation proprement dite. C'est vraiment... c'est à la limite, c'est du feeling. C'est... Tu expliques bien tes résultats, donc les gens vont avoir lu le manuscrit avant, donc ils vont voir le travail. En général, ils ne sont pas manches, donc ils savent à peu près ce qu'il y a dedans, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Hein. Et puis, alors moi j'ai vu une thèse, on sait qu'elle était nulle, tous les membres du jury ont vu qu'elle était nulle. Bon, c'est arrivé jusqu'à dire, en fait, ta manip, là, elle ne marche pas, tu n'as pas mesuré les bons trucs, tu as passé 3 ans pas à mesurer les bons trucs. Mais... Voilà, donc on le voit très bien à travers le manuscrit, à travers tout. Et après, le jour de ta soutenance, est-ce que tu sais répondre aux questions? C'est ça le plus important, parce que l'exercice d'oral, encore une fois, c'est un exercice, c'est un art. Voilà, c'est un passage, c'est un genre de rite initiatique, voilà, les 40 minutes. Et après, tu vois aux questions. Quelqu'un, tu lui poses une question, il répond à côté à la première, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, il est nul. Mais après, de toute façon, ton diplôme, tu l'as. Donc il n'y a pas d'évaluation dans le sens de je rate mon diplôme ou je rate pas mon diplôme. Quand tu es autorisé à soutenir, c'est que tu vas avoir ton diplôme. Une thèse est évaluée sur ton parcours professionnel après, c'est-à-dire que si tu as fait une thèse de manche avec 0 papier et que les 4 personnes ou 10 personnes qui sont là te recommanderont jamais, tu pars à la NPE, tu changes de job. D'accord ? Appelons un chat, vous ne passez pas un examen, l'examen vous l'avez. Pour rentrer en thèse, votre examen vous l'avez. Le but, c'est d'avoir ce qu'il faut pour continuer une carrière après. Ou du moins avoir le choix de votre carrière après. Vous fassiez ce que vous voulez. Donc, c'est les articles, c'est... Voilà. Vous êtes évalué non pas par le jury de thèse, mais vous êtes vraiment évalué par vos articles, par votre travail, etc. Après, comme je vous ai dit, j'ai vu une thèse où la personne, elle méritait même pas une thèse. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour toi, c'est la première fois que j'ai vu ça. Le directeur de thèse qui se barre de la salle en disant vous faites ce que vous voulez, et on a décidé qu'en fait, elle devait soumettre ses corrections, non pas à son directeur de thèse pour qu'il les valide, ce qui est à peu près le cas, hein, mais à chaque membre du jury, pour chaque partie, qui après eux-mêmes valident par rapport au directeur de jury, par rapport au président de jury. Cette thèse était scandaleuse. Elle est partie, elle a eu sa thèse, ça fait un an qu'elle pointe à la NPE. Voilà. Mais on le sait. Donc voilà, vous êtes évalué comme sur un truc de 3 ans, mais c'est pas la thèse. La thèse, c'est encore une fois, c'est un exercice qu'il faut pas rater, c'est tout. Je veux dire, votre thèse, vous rentrez en thèse, vous l'avez. Vous avez déjà vu quelqu'un se faire vider d'une thèse? Non, mais on a vu des gens qui finissent pas leur thèse. Mais est-ce que vous avez déjà eu l'exemple de quelqu'un qui arrive le jour de sa soutenance et on lui dit, monsieur, vous n'avez pas votre thèse? Ça n'arrive jamais. Donc, pas d'évaluation. En revanche, c'est un exercice qu'il ne faut pas rater. Vous avez une pression de barjo pour être, ce jour-là, il faut que vous soyez très bon. Voilà. Voire limite parfait. Il faut que ce soit un exercice qui soit parfait. Qui soit fluide, qui soit... Voilà. Non, parce que sinon, après, vous êtes dans les annales des conneries de thèse. Hein. Ouais. Mais vous savez que... Non, mais vous savez que les... les encadrants, enfin les gens qui sont dans les jurys thèses, ils se rappellent des thésards. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas, on n'assiste pas à 2000 thèses par an, hein, donc on se rappelle en fait des candidats. Puis alors vous avez les candidats de la masse, ceux qui font leur exercice moyennement, ceux qui sont au-dessus, parce qu'on en a vu, parce qu'on les a vus bien présentés, on les a vus bien, bien soutenir leurs questions, enfin voilà. Et puis il y a les en dessous dont on se rappelle. Votre but c'est d'être au-dessus. Pourquoi ? Parce que la communauté est petite. Donc après vous allez en postdoc, tout le monde connaît tout le monde. Donc du coup ça permet de voilà, c'est plus, c'est vous jouer sur votre avenir professionnel. Votre soutenance, voilà, c'est votre soutenance, votre manuscrit thèse, c'est votre avenir professionnel. C'est pas un diplôme. Je veux dire, le diplôme, vous l'avez. Même si vous faites une thèse mauvaise, vous l'avez. Et alors, à la limite, on vous la donne parce que vous savez que nous, si vous ne soutenez pas votre thèse et que vous n'avez pas votre thèse, c'est nous qui en prenons plein la figure. Donc, on voit des gens arriver en thèse avec du grand n'importe quoi. Voilà. Aujourd'hui, vous dites, moi, j'abandonne le... encadrement d'une thèse parce que cette personne ne doit pas faire une thèse, vous mettez une croix sur votre prime d'excellence scientifique pendant 10 ans. Et après, pour, voilà, après vous êtes un peu mal vu. Ce qui vous remonte le moral, c'est quand vous assistez à la thèse et que vous voyez que c'est le bordel. Donc vous n'êtes pas trompé. Alors c'est pas mal en fait. Il y a des gens qui aiment bien poser 10 questions. Bah, alors il pose des questions, c'est simple, hein, vous prenez, vous avez une feuille, un stylo, et vous notez les points clés. Vous pouvez le faire en fait. Par contre, vous écrivez, il dicte pas, hein, vous mettez juste les trucs clés. Ouais, des fois. Voilà, il y a des remarques et des questions. On répond aux questions quand même. On essaie de répondre aux questions. Alors c'est vrai que les personnes qui posent 10 questions d'affilée, c'est pas un chrono, c'est juste que quand vous avez une personne qui vous parle 5 minutes et qui vous pose 10 questions, s'il attend que vous répondiez aux 10 questions, c'est un peu compliqué quoi. Donc non, vous pouvez noter en fait les points. Voilà, faites un peu ce que vous voulez. Hein. C'est pas tant que vous n'arrivez pas à lire un texte, à peu près tout va bien. Arrivez aussi le jour de votre soutenance avec votre manuscrit. Sur vous, d'accord, mettez des post-it sur chaque en-tête de chapitre et sur chaque point soulevé par les rapporteurs. Vous savez pourquoi? Parce que le rapporteur, il est pas bête, il a lu votre truc, il va prendre sa liste de questions et va vous poser là où il a pointé. Si vous passez 10 ans à aller chercher la page de votre manuscrit, vous allez être paniqué. En fait, le but, c'est de tout simplifier. Simplifiez tout ce que vous pouvez pour pouvoir faire, pour être bon ce jour-là. Encore une fois, le spécialiste du sujet, c'est pas le mec du jury, c'est vous. D'accord ? C'est vous qui avez fait les manips, c'est vous qui avez fait le truc, c'est vous le spécialiste. Donc, techniquement, vous savez plus que les gens qui sont sur votre, qui sont en face, sur le sujet que vous exposez. Hein, je ne parle pas en règle générale. Hein. Donc, vous en savez plus. Donc ça, vous êtes le spécialiste du petit truc que vous exposez. Donc, pas de stress. L'autre chose, c'est je fais en sorte que je ne stresse sur rien. Donc, je prépare. Je prépare mon manuscrit, je prépare mes post-it, mes trucs, de façon vraiment à pas aller chercher les choses. Voilà. Alors, après, vous avez la personne qui arrive. Page 77, page 78, page 70. Évitez de regarder le plafond en disant, putain, c'est quand qu'il s'arrête. D'accord ? Bon. Après, vous avez la question qui sert à rien. D'ailleurs, page 78, j'ai noté qu'il y avait une faute d'orthographe. Oui. Ou alors, page 78, j'ai noté qu'il y a une faute d'orthographe, et là, vous le regardez, vous dites, non, parce que dans la règle numéro un tel, il ne faut pas de S. Voilà. Il y a ça aussi, ça arrive. Bon, si on vous dit qu'il y a une faute d'orthographe, vous dites oui, et puis voilà, vous la corrigerez après. Ça arrive à tout le monde. Ah aussi, dites-vous un truc, c'est qu'on a tendance à dire, oula, les vieux là-bas, ils vont être super chiants et tout. Évitez les jeunes. Dans votre durée de thèse comme rapporteur, les petits jeunes qui arrivent avec leur HDR, là, tout frais, tout moulu, évitez-les. en rapporteur, parce qu'en général, ils cartonnent. Les jeunes, ils cartonnent beaucoup plus. Les anciens, ils sont tranquilles, ils sont plus cool, ils ont vu plus. Les jeunes, ils arrivent, ils veulent s'imposer, donc autant vous dire qu'ils viennent, ils viennent cartonner. Conseil, me prenez jamais dans votre jury de test si vous êtes dans mon domaine, parce qu'à mon avis, c'est ça risque de vous faire mal. Mais, non, non, mais c'est vrai. Ce qu'on voit, c'est un truc qu'on voit. Hein. Les gens qui sont plus âgés prennent la vie beaucoup plus calme, ils ont beaucoup plus d'expérience. Et bilan, ils sont plus gentils dans les questions, ils sont plus sympas dans la façon d'aborder. Quand vous prenez des jeunes profs là, à moins de 40 ans, les gars, ils serrent la vis. Et donc, ils sont beaucoup plus durs. C'est un concept. Un prof plus âgé, qui a plus d'expérience, plus de bouteilles, beaucoup plus sympa, beaucoup plus juste et beaucoup plus voilà, qu'un jeune. Un jeune, il n'y a pas d'expérience. Donc, vous les prenez en examinateur. Ouais. Mais évitez le petit jury avec que des petits jeunes là, en disant « Ouais, ils sont jeunes, ils sont cool. Ouais, ouais, ils sont cool. Ouais. » Par contre, le jour où vous êtes devant votre soutenance, là, ils vont l'être beaucoup moins. Donc souvent, c'est ça. Parce que les petits jeunes, ils viennent s'imposer aussi. Donc, ils vont vouloir... voilà. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas en prendre. Hein. J'ai dit « Faites attention. » Les jeunes potes aussi. Parce qu'il y a le jeune pote du directeur de thèse qui arrive, qui veut flinguer le thésard et qui lui explique que tout est faux. Voilà. Monsieur, mais on voit tout en thèse. Il y a beaucoup de gens, ils te disent, ouais, il faut numéroter les diapos, il faut numéroter les diapos. Alors, mon avis, hein, ne mettez jamais un numéro de diapo. Pour la raison suivante. Un, tout. Absolument dans tout. Pourquoi ? Vous savez quelle est la deuxième difficulté, la première difficulté de non-réponse à une question? C'est sa non-compréhension. Pourquoi? Parce que la question est mal posée. Donc, quand vous avez votre jury qui vous dit « Alors, la diapo, il y a telle chose, telle courbe, tel truc. » Attends, déjà, tu prends ta question, tu la poses bien, puis après on discute. Donc, que va faire quelqu'un? Il va se dire « Oh, la diapo 24, j'ai complètement oublié la question. Par contre, la seule chose que j'ai notée, c'est diapo 24. » Donc il arrive, va diapo 24, tu vas diapo 24, et là il ne se rappelle plus de la question, il te pose un truc totalement alambiqué. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens ils fassent l'effort de formuler leur question pour que je puisse leur répondre. Je n'ai pas le numéro de la diapo. La personne, elle va être obligée de retenir le truc, donc de noter, et forcément elle va noter beaucoup plus d'informations pour poser une bonne question. Alors moi, c'est ce que je conseille aux étudiants de master. Sachant que leur directeur de master leur dit « Ah, il faut numéroter les diapos. » Attends, numérote les diapos, c'est facile. Diapo numéro 10. J'arrive diapo numéro 10. Et je n'ai marqué que diapo numéro 10. En fait, je mets le jury un peu en difficulté de façon à ce qu'il me pose vraiment une question. Quoi, qu'il pose pas une question à côté. Parce que c'est facile de planter quelqu'un. Je te pose une question alambiquée parce que je m'en rappelle plus. Alors surtout sur 45 minutes, hein, je m'en rappelle absolument pas de ma question. Donc je te plante. Donc c'est pour ça que moi je ne mets pas les numéros de diapo. En revanche, vous pouvez faire un truc. C'est que vous arrivez avec vos diapos, vous mettez 9 diapos par page, et là vous notez les numéros en gros des diapos.